Oui.
Oui.
Dis-moi, par où y dire ?
En venant à vous, Michel Vitocq, je me suis demandé si vous aviez dans votre collection des lettres du désir.
Des lettres, oui. Du désir, comme l'entend Marc Washburn, honnêtement, je devrais reparcourir toute la correspondance adressée à mon grand-père Valère Gilles.
Dans la réserve précieuse de la Witopiana, Vera, Rodenbach et Vandenberg.
Mais ce sont en général des lettres d'écrivains, de poètes, à mon grand-père, qui était lui-même écrivain et poète.
Vandenberg se trouve représenté à travers ce coffret dans lequel se trouvent des lettres à une de ses dernières égéries.
Produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques et des collections, le monde invisible présente. À la Bibliotheca Vitocchiana, jusqu'au 27 janvier, les lettres du désir, avec Michel Vitocq, Eliane van den Heyde, Marc Washburn, Anne-Marie Affaire, Véronique Hirgo et la participation de Jacques Dapose.
Un mot invisible de nos lettres délivrées de tout, au risque du délit d'absence.
Et les voix de Dominique Rollin, Théo Fleischmann, Christian D'Autremont, Pierre Alechinski et Marcel Lecomte.
L'amoureuse. Raymond se trouve nu dans une chambre à l'étage, qui est à peu près nue. Elle est couchée sur un lit rouge, dans une pose de modèle, au milieu de coussins. À côté de ce lit se trouve une petite table, derrière un paravent. Elle attend le retour d'Hubert qui revient tous les jours de la ville et regarde par la fenêtre où un grand arc-en-ciel dans le ciel se dessine. Un ballon monte avec douceur, orné de quelques petits drapeaux. Raymond parfois soupire. La pluie ne tombe plus. Quelque ferme dans le lointain est en train de brûler sans bruit. L'on aperçoit très bien les flammes et cette fumée lente qui s'élève, qui s'alourdit. Sur la route, quelqu'un s'avance et devant la maison, deux arbres restent immobiles.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Chenicaud par Oui Dire, une production de Pascal Tison.
Le plâtre de Bourdelle, la Bacchante, est toujours visible d'ailleurs dans le bureau de Vera à la Bibliothèque Royale. Le plâtre de Rodin, les Sirènes, faisait partie des biens de Rodenbach. Et nous avons donc là quand même des images de femmes forte, allant de pair avec cette sorte d'idéalisation fin de siècle dont témoigne quelque part ce portrait de Marthe Vera jeune. Et sur le milieu de la table, nous avons mis, Véronique et moi, d'une part la correspondance entre Marthe et Émile telle qu'elle a été reliée, telle que nous l'avons reçue, et à l'avant une lettre que j'ai découverte l'an passé, qui est une lettre extraordinaire à deux niveaux. Elle est de 1889. Vera écrit à la jeune Marthe avec toutes les distances d'époque. Enfin, il dit qu'il a déchiré la lettre, elle était trop littéraire, que pour elle, il ne peut parler que simplement. Et en même temps, il raconte tout son contact fondamental avec Seurat et le néo-impressionnisme. Donc, c'est une lettre capitale et, je ne dis pas inédite, parce qu'on savait qu'elle avait existé, mais qui a été retrouvée l'an dernier.
Je ne crois pas. Donc, pas qu'il y ait à la Vitocchiana ce genre de lettres.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, ma cinquième.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
Authentique.
Le monde invisible.
Oui, il y a peut-être une lettre, mais elle n'est certainement pas expressive pour pouvoir permettre de tirer des conclusions. C'est une très belle lettre de Colette à mon grand-père. Et j'ai toujours soupçonné que mon grand-père et Colette s'entendaient très bien, disons. Surtout depuis que Colette avait été reçue à l'Académie de langue et de littérature française de Belgique par mon grand-père, qui lui avait fait le discours de réception. Et nous avons toutes les photographies de cette séance académique. Et puis, il s'en est suivi une petite correspondance entre Colette et Valère Gilles.
Une expo comme celle-ci donne aussi l'occasion, non pas de revisiter l'histoire, mais de rendre à des figures parfois oubliées, parfois ternies par le temps, l'éclat qu'elles ont eu dans l'histoire.
Lire ta voix de papier comme je bois ton regard en paroles données. Ta lettre absente à voix haute dans le signe et le sacre du moindre mot de toi.
Mais disons qu'il n'y a rien de vraiment aussi marquant que ce qu'on a l'occasion de voir ici à la Huitocchiana, et qui vient des archives et du musée de la littérature.
Ma chère, vous rendez-vous compte que je ne me rends pas compte.
Bon, ben, merci de nous avoir rejoints dans cet écrin qu'est la Huitocchiana.
Par exemple, il y a toute une salle qui est consacrée à Maeterlinck. Bon, nous avons ici l'oiseau bleu, bien sûr, avec une dédicace de Maeterlinck spéciale. Nous avons beaucoup d'éditions originales de Maeterlinck dédicacées à mon grand-père, qui sont sur des grands papiers, donc des exemplaires de tête.
C'est la seconde fois que les archives et musées de la littérature ont le bonheur de travailler dans ces salles, puisqu'on y avait fait une exposition Mertens il y a 2 ans et demi. Et il nous avait semblé, à Véronique, à Alice et à moi-même, que pour les lettres du désir, ce lieu était parfait.
Pour qui nous écoute Michel Vitoc et qui ignore l'histoire littéraire, votre grand-père Valère Gilles.
C'était la Belgique d'avant-garde, effectivement. C'était la Belgique, disons, très proche du mouvement des symbolistes, à tel point que tous les avant-gardistes français, comme Mallarmé en tête, ne trouvaient pas de succès à Paris à l'époque. Nous sommes donc à la fin du XIXe siècle, vers 1890. Et à ce moment-là, par exemple, Mallarmé a été contraint, je dirais presque, de trouver des éditeurs à Bruxelles. Il y avait Demand, notamment, qui était un éditeur très proche des avant-gardes et du symbolisme. Et donc, ce sont les éditeurs bruxellois qui ont certainement apporté ces écrivains français, ces poètes français, sur le plan international et mondial.
Que nous ferions un jour une exposition sur les lettres du désir à partir de cette gigantesque caverne d'Ali Baba, ou d'Ali Babette, que sont les collections du musée de la littérature. Bon, on en discutait, on avait sorti des noms, et bien sûr, vous remarquerez, parce qu'il y a des littéraires parmi vous, les noms qui sont absents, bien qu'ils soient présents dans nos collections. Nous n'avons donc pas ressorti, par exemple, André Bayon, la fameuse petite annonce dans les journaux qu'on faisait déjà à l'époque pour les rencontres pré- ou extra-conjugales. On l'avait déjà exposé, mais on devait faire un choix. On devait faire un choix, puisque le lieu n'est pas gigantesque. Nous avons toujours le rêve de faire une exposition, peut-être un jour très large ailleurs, mais ici, il fallait donc se concentrer sur une série d'aspects inconnus, surprenants, complémentaires, et aussi sur ce que la vie du musée, comme collecte d'archives, nous permet d'engranger. Et dans ce contexte, depuis le 50e anniversaire en 2008, sont arrivés deux événements et deux éléments très importants qui ont modifié profondément ou partiellement la conception que Véronique et moi nous avions eue de l'exposition. Donc je dirais la conception initiale demeure dans fragments de discours amoureux dans la pièce centrale.
À de certains endroits, la brume se suspend au-dessus des campagnes. Voici le soir qui vient. Raymond attend Hubert, mais elle est endormie. Le soir devient la nuit. La lune est là comme un soleil, comme elle fut le soleil de la féminité au temps lointain du monde.
D'une part, nous avons trouvé, par différentes sources, des compléments très importants d'archives concernant la grande muse de Maeterlinck que fut Georgette Leblanc.
Eliane van den Ende, c'est Georgette Leblanc.
On a trouvé aussi des documents René Dahon, plutôt d'un autre type, donc la comtesse, et notamment au niveau photographique, et qui est aussi une remise en exergue, en valeur, de la figure, du rôle de Georgette Leblanc et de la complexité profonde de leur rapport.
Allez-y.
Parlons des écrivains.
Ah, c'est ça, oui.
Vous avez connu Maurice Maeterlinck.
Oui, oui, après 1930.
Mais il y a 101 ans, exactement, Maurice Maeterlinck a remporté le prix Nobel de littérature. Le seul Belge, jusqu'à présent, qu'il ait obtenu. Et moi, je crois que ce n'est pas lui qui aurait dû l'avoir, mais sa muse, Georgette Leblanc. Parce que c'est elle qui lui a inspiré.
Donc au centre, nous avons ce qui survit du voile que Georgette Leblanc porta pour Oiseau Bleu.
Voilà, il y a ce foulard bleu qu'elle portait pour la première représentation de l'Oiseau Bleu, avec lequel il a vraiment obtenu ce prix Nobel. Georgette l'a joué à Moscou dans une régie de Stanislavski.
Et donc les vitrines sont composées comme suit. La dernière, c'est Georgette Leblanc après la rupture avec Maeterlinck, avec des documents très amusants qui concernent D'Annunzio, qu'elle n'aimait pas, et puis bon, ils vont se rencontrer. Les Américains qui sont incapables en amour et pour qui elle va créer des love clinics. Et une des dernières traces des relations avec Maeterlinck. Maeterlinck voulait la revoir, elle ne voulait pas.
Et en fait, ce conte de fées, qui était l'Oiseau Bleu, pour lequel elle portait ce beau voile bleu sur la tête, a été inspiré par Georgette, parce que quand elle est venue à Bruxelles, parce qu'elle a connu Maurice à Paris, parce que Maurice était déjà le coqueluche de l'avant-garde littéraire à Paris, et Georgette voulait jouer dans Péléas et Mélisande. Donc elle a débarqué à Bruxelles, où elle a joué un rôle assez mal payé à la monnaie, mais elle voulait vraiment voir ce Maurice, ce M.M. qui était ce Maurice. Elle a débarqué à Bruxelles chez Edmond Picard dans une soirée et elle raconte dans ses mémoires qu'elle portait comme un diadème, un ruban et sur sa tête, sur son front, elle avait un diamant qui était attaché à ce diadème. Et ce diamant revient dans ce conte de fées, l'Oiseau Bleu, parce que les deux gosses qui sont à la recherche du bonheur reçoivent de la fée un chapeau sur lequel est attaché un diamant.
Et Madame Maeterlinck, avec beaucoup de talent, jouait Mélisande.
Là, nous avons des images de Renée, devenue la comtesse Maeterlinck, jouant des rôles des pièces de Maeterlinck. Ici, c'est une des robes de Boiret que Georgette Leblanc a portée. Et là-bas, c'est Georgette jouant dans Thaïs. Ici, c'est un des trois pêle-mêles dans lequel la comtesse avait rassemblé les photos de la jeunesse de Maeterlinck et les photos de sa vie avec Maeterlinck, y compris cette photo très tardive de Maeterlinck 3-4 ans avant sa mort, qui est malade et dont elle s'approche.
Les... Je vais vous raconter. Les exégètes recherchent toujours la source de certains détails d'une œuvre. Hein? Vous souvenez-vous de la terrible scène au cours de laquelle Golo traîne Mélisande par les cheveux et s'écrie tout à coup « Absalom, Absalom !»
Mais oui, mais oui, ce sont les longs cheveux de Mélisande qui lui font venir le nom d'Absalom sur les lèvres.
Oui, sans doute, il y a rapport, mais ce n'est pas Golo qui trouve le nom, ce n'est même pas Maeterlinck. C'est une histoire assez cocasse qu'il racontait lui-même et qui datait du temps où, jeune homme, il vivait encore en Flandre.
Et cette histoire ?
Eh bien, cette histoire, c'est une histoire de chef de gare.
Non.
Et oui, et voyez comme le slogan estudiantin se vérifie. La femme de ce chef de gare avait des faiblesses pour un jeune homme. Oh, ne cherchons pas qui était ce jeune homme. Le chef de gare, entre deux trains, sans doute, les surprit. Le jeune Cogman a eu le temps de se cacher, ce qui fait que la colère du mari trompé s'abattit sur l'infidèle épouse. Il la secoua assez rudement, l'empoignant par la tignasse en criant en proie à une réminiscence biblique « Absalom, Absalom !» Et Maeterlinck, qui connut cet incident, sa mémoire joua au moment où il écrivit cette scène de Péléa, ce qui fait que l'on peut dire qu'un chef de gare collabora anticipativement à Péléas et Mélisande.
Tout à fait au centre de cette pièce, c'est Aglaben et Célisette, la fameuse pièce que Georgette a toujours dit avoir inspirée à Maurice, qui est une pièce où le prince est entre deux femmes, Aglaven et Célisette. Et à travers, disons, cette pièce majeure de l'évolution de Maeterlinck, on peut aussi lire, à travers des traces que nous possédons, les jeux d'identification de Georgette et même de René, puisque René, tout un temps, on l'appelait Célisette. Et vous savez ou vous ne savez pas, c'est Georgette qui avait amené quelque part la jeune René qui jouait le rhume de cerveau dans L'Oiseau bleu, qui amena René Daon dans le jeu général du couple. À votre gauche, vous avez des traces importantes de Péléas et Mélisande, y compris de la création que Georgette Leblanc voulut en faire, la recréation enfin, dans les jardins de l'abbaye de Saint-Vendry, et bien sûr aussi la trace que ce jour-là, il plut beaucoup. Et que donc les robes de femmes étaient assez collantes et collées. Avec la très belle photo de Georgette devant un globe, on a une série de traces, de notes, de correspondances avec Maeterlinck qui expliquent, je trouve fort bien, enfin qui permettent d'entrevoir ce que fut aussi leur conception, on pourrait dire, mystique de l'amour et des triangles amoureux.
Le vertige de l'instant. C'est un bras de peau brune entièrement nu qui dort et rêve au sein de la grande chaleur muette. Il est établi dans la rue méridionale, dans la rue un peu mouvante et déserte et qui a tôt fait de s'ouvrir sur la mer imperceptiblement agitée. Oublieux du passé, du futur, il semble régner sur sa présence. Étalé dans le plan de rêve, dans la chair de rêve du dormeur, enfermé dans le vertige de l'instant.
Et puis, quand même, puisqu'on est dans le désir, il fallait quelque part un cabinet particulier. Et donc, nous avons transformé le bureau de Valère Gilles en un cabinet particulier tendu noir où vous découvrirez des œuvres diverses que nous commenterons.
Quant à mon grand-père, Valère Gilles, il est resté quand même très traditionnaliste. Il était directeur de la revue littéraire La Jeune Belgique, qui a ouvert ses pages au symbolisme. Mais je n'ai pas décelé dans l'œuvre de mon grand-père une trace de ce symbolisme.
Avec 5 salles, en fait 3 salles et 2 petits espaces, parvenir à rencontrer de grands itinéraires monographiques d'auteurs dont Le désir a été, comme pour tous d'ailleurs, au cœur de la création.
Partagez-vous le sentiment, Marie Laffaire, qu'évoque plusieurs fois Marc Washburn, que le désir est sous-jacent à la création littéraire?
C'est la même chose. Le désir amoureux et le désir d'écrire, le besoin d'écrire, ça relève de la même pulsion. C'est quelque chose
Madame,
d'essentiel, de vital, oui. C'est la même chose.
Je n'ai pu rencontrer que votre être profond, votre corps demeurant à votre corps défendant.
Montrer, d'autre part, des fragments de parcours.
L'ambivalence sexuelle des villes, ça c'est assez extraordinaire parce qu'il a beaucoup vécu à Lisbonne, puisqu'il était d'ailleurs pour la RTBF au moment de la révolution des œillets.
Et du 19e au 20e siècle. Et de parcours divers, donc par exemple, il y a des traces de Dautré.
Et Lisbonne, il dit que c'est une ville ambivalente, elle est mâle et femelle. Ses jardins, ses fontaines, l'eau du fleuve et la mer. Mais alors, à côté de ça, pour lui, New York, c'est une ville mâle et des villes femelles, de tout en courbe, comme Naples ou Rio de Janeiro.
Et des codes pour ceux qui préfèrent les hommes.
Il y a aussi Code, hein, qui lui aussi a eu un procès pour homosexualité oui. Dans son livre.
Je crois que c'est ici.
Voilà, c'est de répondre.
Alors, comme je vous le disais au centre, nous avons mis des codes avec le fameux procès où Picard va intervenir pour le défendre. Il y a là le livre rassemblant tous les témoignages d'écrivains qui ont défendu Ecaut et le télégramme envoyé par Ecaut à sa femme en disant « Je suis acquitté ». Et au centre, l'exemplaire personnel d'Ecaut du fameux roman homosexuel Escalvigor avec la reliure en serpent auquel il tenait beaucoup.
Mais voilà, ça c'est, il écrit à sa femme, Georges Ecaut écrit « Acquitté, reviens ce soir ». Il y a eu une sorte de levée de bouclier extraordinaire. Tous les intellectuels et les écrivains se sont ligués pour qu'il soit libéré. Enfin, c'était quand même incroyable. Mais c'est vrai qu'un homme comme Conrad Dautré pouvait assumer son homosexualité, pouvait même faire des livres où il le décrit aussi bien la drague que ses amours.
Et devant moi, ce sont trois archives très intéressantes du fonds de traits du musée de la littérature. Un texte manuscrit sur Lisbonne qu'il compare à une ville pas androgyne, mais à la fois mâle et femelle.
Mais du temps des côtes, c'était à ce moment-là, quand on pense à ce qui s'est passé en Angleterre.
Il y a des traces de conjugalité profonde, comme chez Marie Gevers, avec ses documents bouleversants, des cartes sous censure allemande, puisque Frans Willems et en Hollande et elle est en Belgique.
Donc ils s'écrivent, et donc il y a aussi cette correspondance-là. C'est aussi une famille où... Parce que Marie Gevers, c'est quelqu'un de aussi assez lumineux comme ça. Elle a un rapport avec la nature, avec les choses de la vie, disons, merveilleux. Mais on connaît peu son histoire d'amour, puisque c'est un amour conjugal qui a l'air comme ça très calme. Mais en fait, quand on lit, on voit bien que c'est pas ça. D'ailleurs, il y a un de ses livres, Madame Orpha, qui raconte dans la bourgeoisie anversoise une histoire d'amour entre une grande bourgeoise et son jardinier. Enfin, c'est genre Lady Chatterley. C'est quand même incroyable. Et vu par une petite fille, en plus. Ce qui donne évidemment un côté moins osé à l'histoire.
Et puis bien sûr Dominique Rollin qui vient de nous quitter et dont on a là aussi des œuvres graphiques.
Pour Dominique Rollin d'ailleurs, c'est clair que si son éditeur de Noël a été important pour elle, c'est parce que tout de suite elle a pu publier Les Marais. Sinon, peut-être qu'elle n'aurait pas continué à écrire comme ça avec une telle régularité comme un métronome. Elle dit un truc très beau d'ailleurs qui est « Peut-être que si je n'avais pas écrit, je serais devenue une clocharde. » Et j'aurais terminé sur un banc. elle a dit ça.
Au fur et à mesure que j'avance en âge, la Belgique me devient plus précieuse. Et en réalité, ça n'a jamais été un exil pour moi de venir m'installer en France, étant donné précisément cette espèce de force que j'accorde à ma mémoire de mes anciennes années. Étant donné que ma mémoire est toujours aussi vivante, aussi charnelle, si vous voulez, et pleine d'objets passés, je ne souffre pas du tout d'exil, je suis toujours en Belgique en réalité.
Pour Rollin, il y a évidemment Solers, il y a évidemment Milleret, dont vous voyez aussi les dessins, et il y a ce que Franz de Haas, notre ancien collaborateur qui a pris sa retraite, a révélé, c'est toute l'importance du lien amoureux à Robert de Noël, et qui va faire passer Rollin justement dans le rôle et le destin d'écrivain et de femme qui sera le sien.
Marc Washburn évoque sa relation importante avec l'éditeur.
De Noël, oui. Oui, ça c'est une histoire assez curieuse parce que, en fait, donc, c'est un amour qui commence, je crois, en 1942. Ça ne dure pas longtemps parce que très vite, De Noël va épouser une autre femme. D'ailleurs, quand il s'est fait tuer à la Libération, il s'est fait tuer sur le trottoir. Sa compagne, qui était devenue son épouse d'ailleurs, était là, quoi. Elle a assisté à sa mort. Mais ça a été une histoire aussi qui a fait que Demi-Crolin a pu se libérer des liens qu'elle avait avec la Belgique. Elle a pu partir à Paris de manière quand même peut-être plus radicale, puisqu'il y avait cet amour avec Robert de Noël. Et puis alors, il y a évidemment Bernard Milleret, qui fut son mari, avec qui, je crois, ça a été vraiment une grande histoire d'amour. En fait, il y a trois hommes très importants dans sa vie, hein, puisque après, il y aura Philippe Solers, Jim, dans les romans.
Et quand je reviens en Belgique, comme par exemple aujourd'hui, je suis émue aux larmes.
Elle avait un si joli accent, ou absence d'accent.
Par les paysages, par les arbres. Et je retrouve alors intact. Vous savez, le contact se fait. Le contact se fait. Il n'y a pas de fente.
Elle avait quelque chose de lumineux. Je me souviens qu'un jour, je ne la connaissais même pas encore, c'était dans les années 60, on était chez Georges Pirouet, parce qu'à l'époque où nous travaillions incidemment, comme ça, pour la Revue Nouvelle, Pirouet dit « Ah, vous êtes belge, mais alors vous connaissez Dominique Rollin ?» Et alors on dit « Oui, bien sûr, on l'a lu, mais on ne l'a jamais rencontré. » Et alors il dit, vous savez que c'est la plus belle peau de Paris, avec un air comme ça. Complètement, il était comme sidéré par la beauté de cette femme. Et c'est vrai qu'elle rayonnait, même à un âge avancé, je me souviens que...
Oui, car on entend, vous avez fait une émission avec elle qui s'appelait Autour de ma chambre.
Voilà, et voilà. Et on a, oui, mais j'étais souvent rue de Verneuil, où elle venait à Bruxelles, j'allais l'interviewer au Métropole. Je l'ai interviewée pour beaucoup, beaucoup de ses livres qui tombaient régulièrement tous les deux ans. Mais là, pour Autour de ma chambre, c'était chez elle, rue de Verneuil, et il y avait un photographe, André Janssens, et c'était un plaisir de la photographier parce que. Elle attirait la lumière, quoi. Vraiment, c'était un bonheur. Et bon, elle était déjà âgée à cette époque-là. Je ne sais pas, c'était dans les années 80, fin 80 ou début 90, je ne sais plus très bien. Et elle était vraiment lumineuse. Et puis bon, j'adorais sa voix.
Il n'y a pas un hier et un aujourd'hui, c'est un hier-aujourd'hui. Alors je ne souffre pas, jamais d'exil. La Belgique est en moi, elle sera en moi jusqu'au bout, et peut-être même après, qui sait.
Pourquoi ? Nous le savons bien, ou pas assez, que cela grand bien fasse à nos absences.
Il nous a semblé également important de lier l'écriture dans tout ce que la correspondance révèle, de montrer aussi certaines traces réalisées d'œuvres, y compris d'œuvres à peu près oubliées. Donc, par exemple, Edmond Picard fut l'amant passionné de Judith Cladel, la tante de Dominique Rollin, qui elle-même a publié un roman profondément oublié, qu'heureusement Fabrice possédait, et qu'il a donc vendu au musée de la littérature, qui est l'amante, puisque une autre caractéristique de cette exposition, c'est de ne montrer que des pièces qui sont dans les collections des archives du musée de la littérature.
Voilà, Judith Cladel, Confession d'une amante, où elle raconte sa relation avec Edmond Picard.
Bon, c'est une façon aussi de donner une image de ces multiples facettes de nos collections et de donner une image de ce qui est en fait en dessous de la création qui est le désir.
Goffin était un homme qui aimait les femmes. Il les dévorait des yeux et il était incroyable.
Notez bien.
C'est le foulard que Robert Goffin donne à sa femme Suzanne et que Goffin donne ensuite à la femme de Skutner Irène.
Je vous écris au présent avec tout l'amour que représente nos silences.
De montrer toute la complexité justement de ce qui porte l'œuvre.
Une histoire incroyable, c'est que sa mère c'était Esther Cladel. Et il y a dans cette exposition l'amour d'Edmond Picard pour Judith Cladel, qui était la sœur de la mère de Demi Colin. Dans la même exposition se retrouvent les deux sœurs, l'une mère de notre écrivain Demi Colin et l'autre amante secrète ou plus ou moins affichée, je ne sais pas, d'Edmond Picard, qui est en plus le fondateur, outre le jurisconsulte bien connu, c'était aussi le fondateur de la Libre Académie, qui s'appelait d'ailleurs l'Académie Picard autrefois, avant qu'on ne l'accuse d'antisémitisme. À l'époque, il faut dire que c'était assez courant, malheureusement.
De ce qui s'y dit et de ce qui s'y transforme.
Et j'ai pu aller chez elle au Sablon.
Pour Suzanne Lillard, on a bien sûr ce qui va donner lieu à la confession anonyme.
Ça, c'est génial parce que cette dame fort âgée m'attendait avec très bien habillée, avec un chemisier en soie rouge, une petite jupe noire. Et puis, avec beaucoup de grâce, elle a répondu à mes questions. Et sinon, à un moment, on parle de l'amour qui a beaucoup compté dans sa vie et comment. Et donc, on parle de la confession anonyme, puisqu'à l'époque, on pouvait en parler. Ce n'était plus anonyme, et du divertissement portugais. Et donc, de son amour pour cet Italien qui était un magistrat en vue, un amour secret, puisque elle était l'épouse Lillard, d'Albert Lillard, qui était un ministre. Et donc, on parle de ça, on parle de sa vie en général. Et puis, elle dit, ah oui, mais moi, vous savez, pendant toute ma vie, j'étais amoureuse. L'amour a été essentiel pour moi, peut-être jusqu'à mon grand âge. Et puis, bon, je termine l'interview et je rentre chez moi. Elle me téléphone et elle me dit « Vous ne pourriez pas enlever ce que j'ai ajouté quand on parle de l'amour dans ma vie, enlever ce petit bout de phrase où je dis « néanmoins jusqu'à mon grand âge ». Mais évidemment, je peux l'enlever. Et elle était toute heureuse pour que l'amour soit présent jusqu'à sa mort. Et c'était extraordinaire. Ça m'a beaucoup touchée, ce coup de fil et ce besoin de dire non, l'amour continue à compter pour moi.
Nous avons mis à côté un très très beau texte de Suzanne Lillard sur sa conception de Don Juan. Et justement, ce qui nous semble intéressant de montrer dans cette exposition, c'est que les correspondances privées, si on les regarde avec un œil qui n'est pas graveleux, généralement ne font qu'expliciter ou incarner ce que l'œuvre a déjà plus ou moins mis en place ou va mettre en place. C'est le cas pour Lillard, c'est le cas pour Rollin.
C'est que j'ai perdu ma mère en 65. Et alors, la perte d'une mère, c'est une chose terrifiante. Il y a une sorte de fracture qui se fait. Et cette fracture nécessite, si l'on veut sauter par-dessus ce drame, de se reconsidérer constamment et complètement et de recomposer son univers passé où la mère est comme une sorte de fantôme permanent.
À toi, je dédie ce silence, c'est tout le silence du monde. Un seul crissement de cette robe, intime peau d'être, enfin. Non.
Donc ça c'est l'esprit général de ce que nous avons voulu montrer et donc ce titre correspondance et création. Qu'est-ce qui dans la création vient du désir? Qu'est-ce qui s'y marque? Qu'est-ce qui s'y transforme? Qu'est-ce qui s'y spécifie? Et qu'est-ce qui dans les traces cachées mais conservées peut éclairer ce qu'il y a de fondamentalement humain et génial souvent dans le processus créateur.
À toi, je dédie ce silence, c'est tout le silence du monde.
Alors, donc là, devant vous, vous vous en approchez ou non, ça c'est le mystère des cabinets particuliers, nous avons rassemblé des œuvres plastiques, essentiellement, ou plastiques et littéraires, qui touchent à notre sujet, et dans ce cabinet, nous montrons des choses peut-être surprenantes ou imprévues. À l'extrême droite, ce sont des compositions de Mambou.
Qu'on connaît beaucoup pour des œuvres avec des femmes africaines, enfin des choses de ce genre-là.
Alors, on connaît Mambou, africaniste, mais ce Mambou-là, avec en plus une lettre publiée donc dans le petit imprimé 4 érotiques de Mambou, sont peu connus et nous paraissaient intéressantes à montrer.
Mais alors ici, on a une sorte de jeu de découpage avec des noms de femmes, Anna, Paula, Bertha et Louisa. Et là, c'est aussi une histoire d'amour qui est derrière.
Comme il nous paraissait intéressant de montrer...
Dans cette exposition, Marcel Marien. Et lui, c'était un amour de jeunesse. C'est incroyable comme histoire parce que c'est un amour qui n'a jamais été abouti. C'est une histoire où il a une femme qui est plus âgée que lui, je crois qu'il avait 17 ans. Et il a écrit des choses très belles sur cette femme.
Des Mariennes un peu moins coquins que d'habitude, et notamment ce très beau texte plein de tendresse du jeune Marienne pour Madame Nonkens.
Ça c'est... Femme blanche ouverte au rêve du tiers-monde et des deux autres tiers aussi. C'est tout à fait lui.
Au centre du cabinet particulier, il y a trois races en fosse de nos collections, dont un fait pour un libraire. Je pense que finalement, il a compris beaucoup de choses, race en fosse, sur ce qu'est la littérature, ce qu'est l'écriture, et le rapport du désir et de l'écriture. Une vision de Baudelaire et sa muse, un peu surprenante, et un très beau nu féminin que je n'ai pas pu m'empêcher de faire partager. À côté du Racan Fosse Baudelaire, il y a un Delville, qui est une sorte de Mélisande, et qui, je trouve, fonctionne bien aussi dans justement ce que peut être un cabinet particulier dans sa diversité. Au centre, nous avons mis un poème de Werner Lambercy, écrit pour célébrer les amours de Laure Tirsio et d'Henri Beauchot, et édité à tirage réduit à Paris dans un petit atelier. Et en sortant, vous aurez quand même deux surprises. D'une part, le grand poète catholique Pierre-Louis Fouquet fait des calvaires un peu surprenamment dalesques. Et de l'autre côté, il y a deux de Beauchet, donc qui est un des sujets que Véronique travaille beaucoup, et qui sont tout aussi surprenants puisqu'ils sont quand même censés illustrer le banquet de Platon.
C'est Jean de Beauchère, Véronique Iago.
Jean de Beauchère est doublement écrivain et plasticien. L'intérêt des petites gravures que nous présentons dans l'exposition est double. D'une part, il s'agit d'un inédit, il s'agit d'un projet d'illustration pour le banquet de Platon. Et quand on sait que Platon, dans le banquet, a donné une réflexion fondamentale sur l'amour, il était pertinent de présenter ces œuvres-là au début de l'exposition. Et c'est une œuvre qui est intéressante à un second titre. Jean Beauchère a beaucoup illustré les grandes œuvres érotiques de la littérature mondiale et il l'a fait à titre alimentaire. Quand il était en exil en Angleterre, pendant la Première Guerre mondiale, véritablement sa vie matérielle était très difficile et son talent d'illustrateur, un talent brillamment illustré dans les œuvres qu'il écrit lui-même, les poèmes qu'il auto-illustre, il l'a mis aussi au service de la littérature érotique mondiale dans le cadre d'œuvres de commande que pendant toute sa vie il a reniées. Or, parmi ces œuvres d'illustration, on découvre, certes, il y a un certain nombre d'œuvres qui, de surcroît, ont été très mal imprimées et sont d'un intérêt très relatif. en mettant une majuscule à ces mots, mais se cachent aussi dans cette production-là des petits bijoux comme les gravures que nous exposons ici.
Un seul crissement de cette robe, intime peau d'être, enfin, nous.
Ah oui, alors il y a aussi ici un vanache dont nous ne savons rien, sauf qu'il est dans nos collections, qui fait partie, je pense, de cette perpétuation du filon symboliste en Belgique. Et en l'accrochant, je regarde hier avec Véronique, je dis, tiens, c'est le nom d'une galerie à Bruxelles, 1942, on a barré le 2, vous mettre un 4. Voilà, c'était exposant. Vous voulez ajouter quelque chose, Véronique ?
À ce propos-là, justement, c'est qu'en fait, c'est assurément une évocation plastique fort séduisante, mais c'est aussi une illustration pour un poème d'Adrienne Rivelard, La Dame du Songe. On est là, à nouveau, à la croisée du littéraire et de l'artistique.
Aurions-nous quelque chose à nous dire au-delà de vos liquides lèvres purpurines ? Oui.
Je suis écrivain à Gloria. C'est pour la séduire.
Un des bonheurs d'une exposition comme celle-ci, c'est aussi de toucher du regard les graphismes.
Je travaille 8 heures par jour pour écrire à Gloria.
Et à l'autre bout de l'exposition, on a donc ce chant d'amour magnifique de Christian d'Outremont à la femme aimée, qui se traduira dans l'élan graphique des logogrammes. Alors, Christian d'Outremont, dans la lignée des surréalistes, fonde son œuvre sur une figure de femme aimée, dont le nom va évidemment évoluer au fur et à mesure de sa vie. Et donc, les documents magnifiques du fond d'Outremont qui ont été déposés par la Fondation Poix-Baudouin et par Guy d'Outremont aux archives du Musée de la Littérature, permettent de suivre ce long parcours qui débute par les premiers poèmes écrits en l'honneur d'une jeune campeuse qui partage avec lui un moment de vacances alors qu'ils sont adolescents, jusqu'à la figure de Gloria. Mais même cet amour de jeunesse donne naissance à un texte magnifique, puisqu'il s'agit du grand texte de Ancienne Éternité, dont nous donnons à voir des épreuves.
Faire les brouillons, faire le net, c'est ma stratégie. Mais parfois je prends congé, parfois même une année, pour que mes lettres lui manquent. Et alors je trace des logogrammes, c'est ma distraction. Mon rêve étant de séduire Gloria par mes logogrammes même dans une civilisation des loisirs.
Vous dites, Anne-Marie Lafer.
77-78 que j'étais le voir à Pied de Rose. En fait, d'ailleurs, pas pour la RTBF, c'est pour France Culture, une émission qui s'appelait Trace. Ça s'est passé magnifiquement parce qu'il était tellement chaleureux que tout mon trac, toute ma timidité a disparu. Vous voyez, je tremblais un peu. Il a été chercher une bouteille avec un petit verre, comme ça. La bouteille faisait un bruit de cuic-cuic-cui de petits oiseaux. Et c'était de l'alcool du Danemark, évidemment. Et il était tout à fait charmant.
Écrire les mots comme ils bougent.
Il y a, dans les émissions que j'ai pu écouter et l'interview que vous avez faite, à un moment où il lit un poème. C'est à votre micro qu'il lit ce poème ?
Oui, absolument, parce que c'était d'ailleurs une demande expresse du responsable de France Culture de lui faire lire un texte.
Tellement plus que moi, comme ils foncent au sommet de leur naissance, où tremblent de chaleur ou de froid.
Gloria, dans les logogrammes, c'est Oula dans la pierre et l'oreiller, Gladys encore ailleurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette exposition-ci, il y a aussi sa première femme, Ellie, qui souvent est oubliée. On pense à Bente, l'horrible nom de la Gloria Oula, etc. On ne pense pas à Ellie.
L'épouse de Christian d'Outremont, à Ellie, fait partie de ces oubliés de l'histoire qui pourtant ont tenu un rôle, et en l'occurrence ici, un rôle d'intendance, certes, et d'appui de l'activité de Cobra, comme une lettre très belle de Christian d'Outremont à son compagnon d'écriture bourgoignier. Cette lettre met en évidence le rôle d'Ali dans le fonctionnement de Cobra.
Ou brusquement se noue contre le froid, ou contre le froid se déplie, comme il se déplie de chaleur ou de tempête ou de pluie, ou se noue, à l'heure aussi, fonde.
Donc ça, c'était un amour absolument terrible, parce que ça a été très court, finalement. Ils se sont très peu vus, d'Outremont et Bent.
Et puis, il y a un autre élément important, après bien des tractations, des années de complications. Le frère de Christian d'Outremont a décidé de rapatrier en Belgique le fonds Christian d'Outremont qui avait été mis en dépôt à Limeck, à l'abbaye d'Ardenne. Et notamment parce que la communauté française a le dessein de nous donner des locaux d'extension rue de la Pâre. Locaux d'extension dont les problèmes budgétaires que vous entendez, les ministres sont encore réunis pour faire des économies, ont en tout cas reporté. Mais donc il y a eu, en dehors évidemment de dons d'archives, dont les archives de Bertin, pour lesquelles on va faire une exposition l'année prochaine, il y a eu, par rapport à notre projet des lettres du désir, deux arrivages majeurs, l'un concernant les triangles amoureux perpétuels chers à l'auteur de Péléas, et d'autre part, le cantique infini de ce poème de l'amour pur qu'est d'Outremont, qui se décline dans les logogrammes et dans le surnom de Gloria.
De très beaux logogrammes nous conduisent alors à la figure sublimée de Betten Wittenburg, cette Danoise qui a été la grande amoureuse de Christian d'Outremont au long d'un grand nombre d'années, mais de peu de moments partagés effectivement. Une figure dont la hantise se lie à la fois dans les brouillons de lettres un peu obsessionnelles de Christian et se lie alors de façon magnifiée, magnifiquement aboutie, dans des logogrammes tels que « Je t'aime à perte de goût ».
Les écrire de mon désordre, certes, mais aussi de leur caprice, pour que même tout écrit déjà, ils bougent encore dans vos yeux.
Ils se sont vus de manière très très passionnelle, c'était très violent, mais en même temps, c'était un amour qu'il a laissé frustré pendant toute sa vie.
Alors, il a d'ailleurs décrit dans un logogramme un de ces moments qui est en même temps une description d'une journée. Je vais vous lire la transcription d'un de ces logogrammes. C'était une journée ordinaire. Je pensais à Gloria. Le matin, j'avais d'ailleurs sommeil. Le soir aussi, mais je m'en apercevais moins. Je me levais, me lavais, mangeais, buvais, etc.
Il en parlait ? Peut-être de manière sereine quand on fait une interview. Mais je pense qu'il avait gardé comme une sorte de très profonde blessure de l'échec de cet amour. C'était un homme très émouvant et qui, peut-être, n'était pas connu pour ça parce que des gens avaient des préjugés vis-à-vis de lui.
Le matin, j'écrivais grand et même très grand et je copiais très petit sur la même feuille, c'est-à-dire que je faisais un logogramme. Vers midi, j'écrivais très petit d'emblée une lettre, pas à Gloria. De temps en temps, j'allais à la fenêtre regarder le hêtre rouge, le vide, les passants, les souvenirs, les mécaniques, la pluie et en même temps la lumière. La neige ici, c'est dans des journées extraordinaires. Vers 13 heures, j'écoutais la radio. Les très mauvaises et les très bonnes nouvelles et le jazz peuvent faire extraordinaire la journée. Je faisais une sieste. Vers 16 heures, j'écrivais très petit un texte littéraire et le recopiais très petit. Une lettre de Gloria, oh Gloria, c'est dans des journées de ce fait extraordinaire. Je téléphonais, pas à Gloria, Et je lisais, j'allais à la fenêtre et je regardais les lampes dans la nuit et je regardais la nuit. Je pensais à Gloria de plus en plus extraordinairement. Le matin, je n'étais pas heureux. Vers midi non plus, mais je m'en apercevais moins. Le soir non plus, mais je m'en apercevais plus, de plus en plus à démesure de la nuit. J'avais de l'humour et de la patience, probablement à tort. Je riais deux ou trois fois, pour savoir encore. La vie semblait infinie de manques, de choses, de personnes, d'idées, d'impulsions et donc de possibilités. C'était une journée ordinaire et cependant distincte, irrémédiablement, irrévocablement, irremplaçable de temps.
C'était produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques et des collections. Le Monde Invisible présentait à la Bibliotheca Vitopiana jusqu'au 27 janvier Les Lettres du Désir avec Michel Vitoc, Eliane van den Heide, Marc Washburn, Anne-Marie Laffaire, Véronique Iago et la participation de Jacques Dapose et les voix de Dominique Rollin, Théo Fleischmann, Christian Dautremont, Pierre Alechinski et Marcel Lecomte. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot par Ouïdir, une production de Pascal Tison.